France Inter. 10.
Mercredi 13 mars, bonjour à tous, bienvenue sur Inter. Anaïs Feuga, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous.
À la une de l'actualité ce matin, les Haïtiens soulagés du départ du Premier ministre.
Qui ne règle cependant pas le chaos dans le pays, témoignage dès le début du journal. L'Assemblée nationale a approuvé hier soir massivement le soutien de la France à l'Ukraine, le pays qui multiplie les cagnottes en ligne pour financer des armes à ses soldats. Dans l'actualité encore, un jeune Rome accuse son père de l'avoir forcé à voler. Les riverains des aéroports mobilisé contre le trafic aérien et un inédit plein de charme de Gabriel Garcia Marquez.
Et nos invités ce matin à 7h50 avec vous Sonia De Villers, bonjour.
Bonjour à tous. M6 a gardé son nom secret jusqu'au dernier moment. Pour les 15 ans de Top Chef, Pierre Gagnaire prendra la tête d'une brigade de la deuxième chance. 50 ans de carrière, 13 étoiles au Michelin. Mais qu'est-ce que c'est qu'avoir une deuxième chance en cuisine?
À tout à l'heure, 8h20, le grand entretien de la matinale avec la secrétaire générale de la CGT, Sophie Binet. 9h20, Léa Salamé reçoit la chef d'orchestre Nathalie Stutzmann.
France Inter. L'espoir est ténu, mais il revient très fragile à Haïti. La démission lundi du Premier ministre Ariel Henry, poussée vers la sortie, entrouvre une porte. Un conseil de transition doit être formé dans les prochains jours, avec pour mission de désigner un Premier ministre et d'organiser des élections dans un pays où personne ne s'est rendu aux urnes depuis 8 ans. Nos envoyés spéciaux Omar Ouaman et Benjamin Tour sont allés à la rencontre des premiers concernés en République dominicaine aux portes d'Haïti. Reportage.
Lorsqu'Ariel Henry a annoncé sa démission, Yannicka, une commerçante, a ressenti une immense joie.
Il n'a rien fait pour nous. Les gens sont en train de mourir et lui, il n'écoute personne. Il n'y a pas de route, pas d'eau, pas d'éclairage, rien à manger. Ariel Henry est un voleur. Les États-Unis doivent le prendre chez eux.
Un sentiment de libération partagé par Jean, arrivé de la ville des Gonaïves et en partance pour les États-Unis.
Ah, je suis très content. Très, 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 très content. Avec Ariel Henry, pas d'espoir que réellement la France, le Canada, les États-Unis prennent conscience de la situation des Haïtiens vivent maintenant. Le peuple souffre beaucoup, beaucoup.
Donc pour vous, c'est un nouveau départ?
Un nouveau départ, oui.
Un nouveau départ qui doit passer par le déploiement d'une force internationale menée par le Kenya. Samuel, originaire du Cap-Haïtien, n'y est pas opposé, car nécessaire selon lui.
Vu l'état actuel du pays, et récemment, il y a plus de 3000 prisonniers qui ont évadé, qui ont laissé la prison. Je pense que la police nationale d'Haïti n'a pas un effectif assez considérable pour combattre ces gens. Un peu de renfort peut être quelque chose de positif.
La démission d'Ariel Henry n'est qu'une étape. Le plus dur reste à accomplir, mettre au pas les groupes armés qui sèment la terreur à Port-au-Prince.
Notre envoyé spécial Omar Ouaman, le Kenya vient d'annoncer qu'il suspend sa mission de police en Haïti. Hier matin, les personnels français non essentiels ont été évacués par le ministère des Affaires étrangères. Le bateau qui a quitté hier le port de Larnaca à Chypre devrait mettre plusieurs jours pour rejoindre Gaza et décharger son aide humanitaire. En 4 mois de bombardement à Gaza, Israël a tué plus d'enfants qu'en 4 ans de conflit à travers le monde. C'est ce qu'assure ce matin le chef de l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens. Cela ne faisait aucun doute, mais c'est désormais officiel. Joe Biden et Donald Trump seront bien les candidats de la prochaine présidentielle américaine. Ils ont remporté assez de délégués après les primaires de cette nuit. Joe Biden qui a annoncé hier une aide, 300 millions de dollars pour l'Ukraine, une somme bien moindre qu'escomptée compte tenu du blocage au Congrès. L'Ukraine qui s'est aussi comptée sur elle-même pour fournir toutes sortes d'équipements à ses soldats grâce à des cagnottes en ligne. Et c'est la population qui met la main à la poche. Camille Magnard est notre envoyée spéciale à Kiev.
Pas de paysages exotiques ni de selfies avantageux sur le compte Instagram d'Andriy Pitomets. Depuis 2 ans, le jeune Kievien branché ne poste plus que des appels aux dons et des vidéos de soldats reconnaissants. Comme des centaines de milliers d'Ukrainiens, Andriy et son ami Oleksy organisent des cagnottes en ligne pour acheter à des soldats qu'ils connaissent, ce que leur armée n'arrive plus à leur fournir. En tout, cette générosité populaire mobilise 1 milliard d'euros de dons par an, mais elle donne des signes d'essoufflement, selon Oleksy.
D'une manière générale,
La dynamique des dons ralentit, malheureusement. Peut-être parce que la société est lassée, moralement et physiquement. On doit se creuser la tête pour motiver les donateurs.
Alors l'économie du don se professionnalise, emprunte des techniques au marketing digital où l'on promet des récompenses aux meilleurs donateurs et à ceux qui arrivent à collecter le plus de dons. Mais pour Andriy, tout ça ne suffit plus vraiment à se sentir utile loin du front.
À l'automne dernier, j'ai fait des démarches pour m'engager dans l'armée, mais pour différentes raisons, ça n'a pas été possible. Je le regrette. Pour le moment, j'essaie de faire tout ce qui est en mon pouvoir ici, et pour la suite, on verra bien.
En attendant, Oleksiy et Andriy rendent parfois visite aux soldats qu'ils aident grâce à leur cagnotte. Une manière, disent-ils, de maintenir le lien entre l'Ukraine du front et celle de l'arrière.
Reportage Camille Manière à Kiev pour France Inter. Hier, les députés français ont apporté un large soutien à l'accord de sécurité conclu pour 10 ans entre Paris et Kiev. Le vote non contraignant a été remporté par 372 voix contre 99. Les Républicains, les Socialistes, les Écologistes ont voté avec la majorité. Insoumis et Communistes ont voté contre. Le RN s'est abstenu. Emmanuel Macron sera à la télévision demain soir à ce sujet dans les 20h de TF1 et France 2. Et alors qu'on apprend que l'ancien chef de cabinet d'Alexei Navalny a été violemment agressé devant son domicile hier soir en Lituanie, Leonid Volkov, figure de l'opposition russe en exil, il y voit une agression typique du mode opératoire des hommes de main de Vladimir Poutine. On y revient dans le journal de 8h.
Il est 7h06, le ras-le-bol des riverains des aéroports.
Autant d'avions dans le ciel qu'avant le Covid et le trafic aérien pourrait même doubler d'ici à 2040. À l'occasion de la journée européenne pour le plafonnement du trafic aérien, les habitants se mobilisent donc aujourd'hui devant les préfectures et les aérodromes et devant le plus grand aéroport de France, Roissy-Charles de Gaulle, reportage Sandy Dauphin.
C'en est un qui vient de décoller, qui est passé comme ça, c'est sans arrêt.
Vincent Guillon habite à Enghien-les-Bains, à une quinzaine de kilomètres de Roissy. Il n'en peut plus de voir passer les avions au-dessus de sa maison toute la journée.
L'été, c'est un toutes les 30 secondes. On ne peut pas rester sur la terrasse. C'est invivable. La deuxième chose, c'est la pollution qui se compose de micro-particules noires et grises, très grasses, qui se met sur le mobilier. Et tous les deux jours, on passe l'éponge.
Une journée à Roissy, c'est 1200 avions par 24 heures. Son épouse Marie-Laure n'en dort plus.
Moi, je suis réveillée la nuit à 2h, 3h du matin, alors que nous avons plus que triple vitrage.
En 2022, le gouvernement des Pays-Bas a annoncé qu'il allait plafonner le trafic aérien de l'aéroport d'Amsterdam, une première en Europe que l'association contre les nuisances aériennes de l'aéroport Roissy voudrait voir appliquer en France. Audrey Boëli, militante à l'AdVocNAR.
Nous demandons un plafonnement à la baisse, donc une réduction d'environ 10% du trafic. À Roissy, on a un précédent à l'aéroport d'Amsterdam Schiphol. C'est un aéroport qui a la même taille que Roissy, donc on sait que c'est possible.
Pour ou contre un couvre-feu et la réduction des vols, depuis lundi, plus de 140 villes autour des aéroports de Roissy, d'Orly, du Bourget et de Beauvais organisent une consultation citoyenne sur les nuisances aériennes.
Et une mobilisation est prévue vendredi devant le ministère des Transports. Les associations, les syndicats ont eu beau alerter sur le risque de désorganisation du système, de perte d'indépendance des experts et de transparence à l'égard du public. L'Assemblée a voté hier soir le principal article sur la sûreté nucléaire qui ouvre la voie à la fusion controversée de l'ASN et de l'IRSN. L'histoire est peu banale. Deux hommes comparaissent aujourd'hui devant la cour criminelle de Paris pour traite d'êtres humains, dénoncés par un membre de leur famille, un jeune homme qui les accuse de l'avoir obligé à voler alors qu'il était adolescent. Morgane Klein refait.
Ces accusations, il les a maintenues sans varier depuis 3 ans. Ce jeune homme, tout juste majeur aujourd'hui, n'a cessé de dénoncer son demi-frère plus âgé et son père qui le contraignait, selon lui, à voler notamment au distributeur automatique. 6 jours sur 7, repos seulement les mardis. Ce n'est qu'avec l'aide et le suivi d'une association qu'il a commencé à parler. Avec ce procès, pour son avocate, maître Constance de Vavrin,
qu'il tire un trait sur sa famille et sur une bonne partie de sa vie passée. Ses enfants, ils sont pris en étau dans un conflit de loyauté qui est difficilement surmontable. Et ça, c'est pas facile pour un enfant de faire ce choix-là. Ça demande quand même beaucoup de courage. En général, les enfants font marche arrière, repartent dans leur famille, sont récupérés par les réseaux.
Les inquiétudes de représailles sont souvent là, ajoute-t-elle, surtout dans les affaires comme celle d'aujourd'hui, où un des accusés, le père en l'occurrence, reste introuvable. Seul le demi-frère comparaît. Calais. Le jeune homme qui a dénoncé les faits, lui, se trouve par ailleurs en détention provisoire, précisément pour les vols qu'il dit avoir été contraint de commettre.
Un aller-retour privé-public. Laurent Pietraszewski, l'ancien secrétaire d'État macroniste, va présider le conseil d'administration de Casino. Avant son passage dans les ministères, il avait travaillé pour le distributeur Auchan. Voilà une expérience innovante, étonnante et participative pour savoir si l'on consomme plutôt de la viande ou des fruits et légumes. Des scientifiques ont eu l'idée d'aller observer de près nos égouts. Ils demandent aux habitants du 20e arrondissement de Paris de manger beaucoup plus de fruits et légumes que d'habitude pour voir si l'on en trouve des traces dans les eaux usées. Il faut pour cela convaincre les Parisiens, Ajram Mohamed.
C'est sur le marché que Catherine Carré tente de convaincre les habitants de participer à cette expérience inédite.
Bonjour monsieur.
Cette semaine, je vous invite à manger le plus de fruits et de légumes que vous pouvez parce que nous allons dans les égouts et nous mesurons dans les égouts ce que les gens mangent.
Ah ben d'accord, ben je vous souhaite bonne chance.
Bah oui, c'est un peu ragoûtant quand même.
Quelle idée ?
Ah moi j'ai un problème grave de constipation.
Ah donc vous n'allez pas pouvoir beaucoup aider hein ?
Non. Oui.
Et l'intérêt, c'est quoi ?
Il y en a plusieurs, répond la géographe, professeure à l'Université Paris 1 et membre du projet Égout.
Premier intérêt, est-ce qu'aujourd'hui, on voit une alimentation équilibrée des gens à travers des fruits et des légumes ou pas ? S'il y a des gens dans des quartiers qui mangent plus de fruits et des légumes que d'autres, pourquoi ? Est-ce que c'est plus cher ? Qu'est-ce qui se passe ? Et ça, ça va permettre d'accompagner les politiques publiques.
Les égouts sont, depuis des années, une véritable mine d'informations quand il s'agit d'enquêter sur l'usage de drogues, de médicaments et de pesticides. Pendant la crise du Covid aussi, ils ont permis d'identifier des foyers de contamination. De quoi convaincre Josette, le sac plein de courgettes, elle est prête à donner de sa personne.
Si mon caca peut servir à la science, pourquoi pas, au contraire, c'est très bien.
Et Josette est impatiente de connaître les résultats de cette étude scientifique. Ils seront dévoilés à la fin du printemps.
Vincent Bolloré, auditionné aujourd'hui par les députés. Le milliardaire contrôle le groupe Canal+, dont CNews et C8. Il est entendu alors que l'ARCOM est en plein processus de renouvellement des fréquences de la TNT. Enfin, c'est un petit bijou de littérature, un roman inédit, publié 10 ans après la mort de Gabriel Garcia Marquez. Le prix Nobel de littérature colombien y avait travaillé pendant plusieurs années avant de jeter l'éponge, mais ses deux fils ont décidé de le publier et ils ont bien fait, Ilan Amor Youssef.
Le roman n'a pas l'ampleur de 100 ans de solitude ou de l'amour au temps du choléra. En une centaine de pages à peine, il raconte l'histoire d'une femme dans sa maturité qui découvre la liberté sexuelle. Et ce n'est pas, comme on aurait pu le craindre, un fond de tiroir accommodé à la sauce marketing. Olivier Nora, directeur des éditions Grasset, éditeur français de Garcia Marquez.
Ceux qui ont suivi vraiment l'œuvre de Gabo, enfin de Gabriel Garcia Marquez, savaient qu'il y avait quelque chose qui existait, puisque El País, en 1999, avait publié le premier chapitre. On sait que Gabo avait terminé ce manuscrit et avait noté un grand OK final sur la copie qu'il avait laissée à son agente qui s'appelait Carmen Balcells.
Mais dans les dernières années de sa vie, l'écrivain souffre de perte de mémoire. Il décide de ne pas publier ce roman, pourtant plein de charme et tout à fait surprenant dans son œuvre.
Autant il y a eu des très beaux personnages de femmes dans l'œuvre de Garcia Marquez, autant, à ma connaissance, il n'y a jamais eu de personnage principal à travers les yeux duquel nous voyons le monde et qui soit une femme. Et a fortiori pas une femme qui éprouve sur le tard sa liberté de femme.
Les deux fils de Garcia Marquez le jurent. Après ce texte, il n'y en a plus d'autres. Ils n'ont pas fait ça pour l'argent.
Nous nous verrons en août, c'est le titre et c'est publié aux éditions Grasset.
Merci Anaïs Feuga. Dans 3 minutes, le zoom. Aujourd'hui à Moscou, à 48 heures de l'élection présidentielle.